CFM, le mag. Le mag.
Bonjour à tous, la rubrique à lire, à voir et à entendre. Aujourd'hui, c'est avec Guillaume de la BD Tech, le stylo habile. Mais peut-être qu'on peut en parler de ça, puisque ça a changé de nom déjà.
Oui, bonjour Guillaume. Bonjour Marie-Laure, tout à fait. Il y a eu un changement structurel pour la BD Tech, qui était la BD Tech de l'association Tout Azimut jusqu'en juin 2013. Et pour des raisons d'abord fonctionnelles, on va dire, moi j'étais bénévole sur la BD Tech Tout Azimut en tant que gérant pendant 2 ans. Et donc, pour être tout à fait transparent, c'était plutôt pour des fins substantielles que j'ai impulsé le changement de statut. Donc aujourd'hui, la BD Tech n'est plus associative, le fonctionnement reste le même, l'engagement des adhérents est identique à ce qu'on proposait au sein de l'association Tout Azimut, c'est-à-dire une adhésion annuelle et une possibilité de réduction du coût de l'inscription si les adhérents souhaitent, veulent bien, font confiance au service pour prêter des bandes dessinées personnelles pour une durée d'un an minimum.
D'accord, donc c'est toujours le même Guillaume et c'est toujours le même fond de BD.
C'est juste le cadre administratif
voilà.
Qui change.
Donc pour les lecteurs, ça ne change pas grand-chose, à part que maintenant c'est le stylo habile.
Le stylo habile, tout à fait.
On peut le rappeler maintenant aussi les heures de permanence.
Les permanences, alors les permanences, pareil, ça n'a pas changé, il y en a même juste une en plus, c'est le premier et troisième mercredi de chaque mois au centre social Corps de Vahour à Les Cabanes, de 14 à 17 heures. Le premier vendredi de chaque mois à Vahour, alors là si il y a un peu de changement, parce que jusqu'ici c'était en partenariat avec l'asso Atmosphère, qui gérait le bar associatif à l'Hôtel du Nord. Le partenariat avec l'asso Atmosphère perdure, mais le lieu change. Ils sont en train de construire, en autoconstruction d'ailleurs, un local qui servira au bar associatif, et donc pour le moment c'est un peu en transit. Je dis ça parce que pour cette permanence du premier vendredi de chaque mois, ça sera au lieu Le Muret, qui est une chambre d'hôte à Vahour, et puis l'Hôtel du Nord. C'est vraiment la première, donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu hésitant, mais il n'y a pas de problème, elle se tiendra. Donc premier vendredi de chaque mois à Vahour, et troisième vendredi de chaque mois à Mouziès-Panins de 18h à 20h30.
Que de changements pour cette fin d'année, enfin, c'est un peu la conséquence de cette année de changements.
Changements évolutifs vers des lendemains tout à fait propices.
Et d'ailleurs, le centre social, ce n'est plus centre que le centre social, c'est aussi centre social et culturel Corps de Vahour.
Pardon pour le centre social, que je ne me fasse pas
parce que c'est très
tirer
important,
les oreilles.
Très
tout
important.
À fait, et la BD Tech, je pense, s'inscrit plutôt pas mal dans cette dimension culturelle.
Tout à fait, exactement. Et parlons-en, justement. Quelles sont les suggestions de ce mois-ci ?
Les suggestions de ce mois-ci, alors deux BD. La première s'appelle « Week-end avec préméditation » de Pierre Wassem et Tom Tirabosco. Alors une BD, pour moi, assez singulière. Tout d'abord, un graphisme noir et blanc, avec des formes de visage un peu géométriques, pas forcément très fines ou élaborées d'un point de vue technique, on va dire, mais qui donne une dimension un petit peu second degré, un petit peu décalée à l'intrigue. De quoi elle parle cette BD, Week-end avec préméditation?
De quoi elle parle? Alors c'est moi qui suis censé répondre.
C'est pas ce que je sous-entendais, mais puisque...
Pour voir si j'ai bien écouté tout à l'heure. Le deuil en amitié, alors présenté comme ça, c'est pas très joyeux.
C'est pas très joyeux, elle parle de l'absence, elle parle de la perte d'un être proche, mais alors là, plutôt dans le, comme tu l'as dit, dans le contexte de l'amitié. Ni famille, ni amour, même si... ça peut se relier, bien évidemment. Non, elle parle d'un groupe de 3 potes qui ont fait un jour un week-end ensemble, et il n'y en a que 2 qui sont revenus du week-end. Donc finalement, là j'en dis presque trop parce que...
Oui, ça fait... puis en plus ça fait un peu film d'horreur. Là.
Ça fait un peu film d'horreur. En plus, graphisme noir et blanc, il y a quand même pas mal de coticisme et un peu d'humour noir dans cette BD. Mais en fait, tout ça... vous l'oubliez, vous prenez la BD, vous allez l'oublier quand vous prendrez la BD, parce que le ton est plutôt léger, beaucoup d'humour, et il n'y a aucun moment où on s'appesantit avec pathos sur la perte et l'absence et le côté morbide de l'intrigue. Et non, non, il y a plutôt une grosse bouffée d'espoir dans l'assimilation de ce genre de circonstances et de situations. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment réussi dans cette bande dessinée. L'histoire, à aucun moment, ne nous plombe.
Mais ça parle justement de l'assimilation de ce changement, justement, ou ça parle vraiment du moment où ça se passe ?
Ben c'est, en fait, il y a des dimensions croisées dans le récit. Il y a le week-end où l'ami est encore là, et il y a un autre week-end où les deux reviennent au même endroit, commémorer un petit peu, ou se rappeler, ou essayer de comprendre, ou essayer d'analyser. En fait... Quand je dis qu'il propose cette BD propose un petit peu le processus d'assimilation, même pas, c'est vraiment plus un constat. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, sinon essayer de l'accepter. C'est pas tant analytique que juste constatatif.
C'est juste faire face à la réalité pour l'accepter.
C'est ça, exactement.
D'accord, donc on rappelle le titre.
Week-end avec préméditation, des auteurs Pierre Wassem et Tom Tirabosco. Elle est parue, pour les petites informations, en 2000 pour la première édition. Pour ces deux auteurs, Pierre Wassem et Tom Tirabosco, qui dépeignent vraiment des ambiances particulières dans leur BD, ils ont eu d'autres collaborations ensemble. Je donne les titres. Monroe, fin du monde. La BD Sous-sol. Il y a une BD aussi dont on reconnaîtra le graphisme de Tirabosco au dessin, qui s'appelle Congo. Ça parle de Joseph Conrad, et c'est son expérience c'est fin 19e ou début 20e, je ne sais plus, au Congo belge. Donc un gros pamphlet anticolonialiste. Mais fin, c'est pas tant revendicateur que, voilà, pareil, un peu un constat de l'état des choses.
D'accord, d'accord. Et une particularité, j'ai l'impression, alors je vois de loin la BD, toujours dans la même week-end prémédité, beaucoup de dialogues, beaucoup d'écriture. Est-ce que c'est une particularité de ces auteurs ? Est-ce que c'est très littéraire ou...
Non, c'est pas très littéraire. Ça a l'air comme ça parce que c'est aussi qu'ils écrivent gros. Tout simplement, et que du coup on a l'impression que c'est chargé, mais ça se lit vraiment bien, et c'est pas trop compliqué
entre guillemets
en termes d'accès. Bon, c'est une BD qui vise plutôt un public adulte, mais à partir de 14-15 ans on peut s'y pencher. Un petit extrait pour se donner une idée justement du texte. Donc là ils sont tous les trois. Ils sont à table et ils sont en dissension, voire en engueulade sur un sujet. Je ne parle pas forcément du sujet, on va voir si l'extrait laisse entendre ce dont on parle. Il y en a un qui s'énerve. « On ne va pas supprimer le métal sous prétexte qu'on peut faire des armes avec, mais retourne vivre au Moyen-Âge, et tu comprendras assez vite quels sont les progrès apportés par la science. » « T'es complètement aveuglé, mon pauvre Serge. Le problème est que le fruit de toutes ces belles recherches est aux mains de multinationales sans scrupules et non aux mains des citoyens. » T'es trop con, avant on crevait d'une simple appendicite. T'as raison, le fait est qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de mourir d'une appendicite, ni de quoi que ce soit d'autre, sauf de conneries peut-être. Là, un blanc, le silence s'impose, un des trois s'est barré parce que excédé, et il y en a un qui veut détendre l'ambiance. Hume, à part ça, vous savez ce que fait une femme avec son trou du cul le matin ? Ben, elle lui fait un café et elle l'envoie au boulot. Ça sera tout pour l'extrait.
Voilà, on voit tout de suite l'ambiance assez hétéroclite en fait, ça peut passer d'un registre à l'autre.
Complètement, et ça le fait de manière très fluide. Vraiment cette BD, elle est intègre dans le sens où tout est assumé, tout est juste dans le ton, le graphisme, le noir et blanc, le thème, et tout colle.
Et voilà, on rappelle le nom de cette BD.
Week-end avec préméditation de Pierre Wassem et Tom Tirabosco aux éditions Les Humanoïdes Associés.
Merci Guillaume.
Merci à toi.
Eh bien justement, il n'y a pas de justement. Eh bien avant de passer à la prochaine BD qui est dans le registre médiéval.
Plus,
bon, alors ça c'est juste ce que j'ai vu de loin.
Tout à fait, c'est plus l'époque qu'on catégoriserait généralement Heroic Fantasy. Mais j'en dirai un petit peu plus.
D'accord, eh bien mettons-nous dans le thème médiéval avec Loco Locas, c'est ton choix. la bataille des murailles. Donc voilà, à découvrir.
Il y a de cela des lunes alors que la terre de nos terres était encore brune et que les pères de nos pères burinaient les runes. Chacune des contrées se sont rencontrées afin de contrer une lacune remarquée par le monarque des monarques. Yvan, désireux de laisser sa marque de commerce, voulait lever les herses afin que le commerce perce les barrières et que les sesterces s'acquièrent sans frontières. Manifestement, Yvan, l'empereur de la parole, les paumes sales et souillées de sang. Il a bâti son royaume en assujettissant tout à la fois les petits gnomes que les clans les plus puissants. Sous son immense rond blanc et resplendissant, et depuis ce temps sous le chaume, les paysans sont agonisants.
Yvan, les paumes sales et souillées de sang, les paysans sous le chaume sont agonisants.
Soi-disant pour remédier à ce meurtrier, Yvan invite à sa table tous les notables. Un seul est jugé indésirable, un incroyable nain à la barbe vénérable, en exil dans une île,
coupable
de n'avoir jamais fléchi l'échine devant la machine du seigneur de la rancœur de pierre qui tient rigueur à l'insulaire et l'isole dans son atoll.
Les monarques unis pour abattre les clôtures se sont réunis entre quatre murs afin que le plus petit de leurs murmures meure sous le cliquetis des armures. L'or est au leur à la bataille des murailles. Au-delà du portail, c'est la ripaille pour les quelques canailles, mais pas une grenaille ne reste pour la marmaille. Mais pas une grenaille ne reste pour la marmaille. Camarades, tous aux barricades, à l'assaut de la palissade, fini la mascarade. Pas question qu'on nous mène à l'abattoir sans pouvoir savoir ce que le pouvoir nous cache dans le noir. Camarades, tous aux barricades, à l'assaut de la palissade, fini la mascarade. Pas question qu'on nous mène à l'abattoir sans pouvoir savoir ce que le pouvoir nous cache dans le noir.
Samouraï et racaille aux portes des murailles, avec l'OCO et l'OCASS se dresse à la herse de la forteresse où se taire les saints des paracins assassins. Yvan suffisant, ombre sombre, nombre suffisant pour éradiquer le clan des dissidents et disséminer les dents aux 80 à main nus sans gants.
Sanglant, ils feront pas semblant.
Mais pour l'instant, seul coule la salive et les invectives des deux côtés de la rive. Les regards se rivent, la tension est vive. On est sur le qui-vive en attendant que l'inévitable arrive. Et quand de main de maître, on perce le périmètre. La clé crapique,
la clé crapique.
Les flics, les flics paniquent comme des liens qui passent à l'attaque et matraque du tac au tac, tac au tac, tac, tac. C'est le saccage, la veille est sortie de saccage. On nage en feu et nage, casque et masque et l'escadron. Fond sur tous les flancs comme un faucon sur un fan. Mais pas question qu'on capitule. Parti, parti, par ici la catapulte. Selon les calculs, on peut percer le rempart, le grand rempart. En haut du château, on lance des carreaux. Certains sont chaos, sur le carreau, c'est le chaos. C'est ainsi que voulant faire vaciller les sorciers du pouvoir qui n'ont pas sourcillé. Le peuple a fini éparpillé, éparpillé comme un lévrier, tout un quartier ouvrier. Et pendant que les tribus s'attribuent le tribut du rififi, le royaume s'unifie et se solidifie sous le dôme fantôme de l'économie. L'économie.
L'économie. Les monarques unis pour abattre les clôtures se sont réunis entre quatre murs afin que le plus petit de leurs murmures meure sous le cliquetis des armures. L'heure est au leur à la bataille des murailles.
Au-delà du portail, c'est la ripaille pour les quelques canailles. Mais pas une grenaille ne reste pour la marmaille.
Mais pas une grenaille ne reste pour la marmaille.
Loco, locas, dans la rubrique à lire, à voir et à entendre, c'est pas si médiéval que ça, en fait.
Oui, il y a quand même, c'est un peu contemporanisé.
Quand même, quand même.
Avouons-le.
Avec des paroles très, très actuelles.
Très actuelles, mais un peu intemporelles quand même. Enfin, en tout cas, eux, ils ont misé un petit peu sur l'ambiance pour parler de je ne sais pas si je suis le plus à même de parler de musique, mais en tout cas, Loco Locas, oui, c'est un mélange de pas mal de styles et avec ce phrasé un peu slam rap et l'accent québécois tranché au couteau.
Parlons de cette deuxième œuvre.
Cette deuxième BD. Donc,
nous plonge.
Le pavé que j'ai là a été intitulé L'Esprit perdu. Initialement, elle est sortie en 3 exemplaires sous le titre de Messire Guillaume. J'ai pas ramené les titres de chaque BD, mais donc c'était Messire Guillaume et puis donc un tome. Elle parle d'un jeune garçon à la frontière entre l'enfance et l'adolescence, pour situer, dont la sœur a disparu. La BD commence comme ça, sa sœur a disparu.
Décidément.
On apprend un peu très rapidement que leur père est mort et que leur mère a été redemandée en mariage par un notable du coin qui a l'air un petit peu fourbe, un petit peu véreux. Ça, c'est pour poser le décor. Donc, Guillaume part à la recherche de sa sœur d'abord et en toile de fond, de manière beaucoup plus absolue parce que vraisemblablement son père est décédé, aussi à la recherche de son père. La particularité de cette BD, c'est que, bon voilà, époque médiévale, elle mêle un petit peu de magie, mythologie, on sait jamais très bien, mais après c'est pas de l'héroïque fantasy pure, combat, magie, boule de feu, qui part dans tous les sens. C'est plutôt feutré, c'est plutôt calme, mais il y a de l'action. Et la particularité de cette édition-là, l'intégrale, donc les 3 tomes réunis, c'est tout en noir et blanc, format à l'italienne, c'est-à-dire A5 inversé. Si on le prend pas dans le sens de la hauteur, on le prend dans le sens de la largeur.
D'accord.
Comme ça, quoi. Toi, tu le vois, les auditeurs ne le voient pas.
Oui, oui, oui.
Tu veux émettre des précisions pour
qu'on s'en rende bien compte. Non, parce que moi, l'italienne, je veux des rideaux rouges. Alors forcément, ça ne correspond pas du tout au livre. Oui, d'accord. En fait, il n'est pas plus haut que en hauteur.
Il est plus large
que haut. Il est plus large que haut, c'est ça.
Format A5, dans le sens de l'horizontalité.
D'accord, ben voilà, tout simplement.
Donc ça, c'est le format. Le noir et blanc, pareil, donc 2 BD en noir et blanc, ça tombe comme ça, c'est pas forcément un choix de ma part, encore que peut-être, mais du coup, choix plutôt inconscient. Un graphisme très, très fin, hyper fin, on est un peu dans la ligne claire, hein, qui est donc la BD du départ du XXe siècle. J'ouvre, excusez-moi chers auditeurs,
on m'a fait signe, Guillaume.
Ouvre la BD, j'ouvre, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Donc oui, la ligne claire, hein, la BD dans laquelle on a baigné, en tout cas au XXe siècle, était plutôt un graphisme qu'on va dire propre, net, sans bavure. Et depuis quelques décennies maintenant, les auteurs fouillent, cherchent et on trouve vraiment de tout en termes de graphisme. Là, on a un graphisme qu'on pourrait plus qualifier de classique, avec ce site particulier qu'il y a quand même quelque chose de très actuel dans la nervosité, dans le côté vivant du dessin qui colle hyper bien à l'intrigue, quoi. En tout cas, là c'est pareil, un peu comme Weekend avec Préméditation qu'on a vu tout à l'heure. C'est très juste, ça colle parfaitement à l'histoire. Et personnellement, je suis fan. Pour moi, c'est une des meilleures BD, que ce soit au niveau qualité technique, graphique et d'histoire, que j'ai lu ces 2 dernières années.
Moi, avec mes références à 2 balles en BD, ça me fait penser, pour moi, c'est entre L'Estampe chinoise et Corto Maltese. Alors, est-ce que je me trompe ?
C'est pas mal. Corto Maltese, en un peu plus affiné au niveau graphique, moins lâché. Le trait est moins lâché que celui du Goprat, qui était finalement pas si détaillé que ça au niveau technique, mais on a un petit peu les mêmes ambiances en termes d'ombrage et en termes, on va dire, d'angle par rapport notamment les visages de cette BD qui sont un petit peu anguleux, quoi. Il n'y a pas des disproportions folles au niveau du visage, c'est un dessin assez réaliste.
Un petit peu de profil aussi.
Un petit peu de profil, le côté aquilin,
voilà.
Des nez.
Donc c'est 3 albums en un, toute la saga.
Tout à fait.
C'est un peu une saga en fait.
C'est une saga réunie et donc l'avantage c'est d'avoir toute l'histoire aussi, hein, donc le principe d'une intégrale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à cette BD ? Peut-être un petit mot sur les auteurs, donc,
oui,
parce que je n'ai même
tout
pas,
à fait.
Qu'on n'a même pas évoqué. Donc, puisqu'on parlait du dessin, Mathieu Bonhomme au dessin. Mathieu Bonhomme, on lui doit Esteban, tout seul. Une saga, pareil, d'un jeune argentin indien d'origine à qui il arrive tout un tas d'aventures. Qui est une très bonne saga entre deux âges, on va dire, en enfant, ado. Mais bon, c'est même intergénérationnel. Les adultes le lisent avec plaisir aussi, dans la plupart des cas en tout cas. Mathieu Bonhomme, on lui doit aussi Le Marquis d'Anaon avec Fabien Velman au scénario. Je vais pas m'étendre sur chaque BD, mais c'est de la qualité. Et Texas Cowboy également avec Lewis Trondheim au scénario. Le scénariste de cette BD, L'Esprit perdu, Messire Guillaume, c'est Gwen de Bonneval. Gwen de Bonneval, j'imagine que c'est un breton, à qui on doit Gilgamesh, une BD en deux tomes sur ce roi, je crois qu'il était roi, Gilgamesh, plus du côté de la Perse ou des...
Ah oui, moi j'aurais presque dit barbare.
Barbare, pas loin. On parlait des barbares en aparté. Oui, ça, on va dire que c'est assimilable à ce genre d'univers, avec Franz Duchazeau au dessin, et on lui doit aussi Les Racontars, deux tomes avec Hervé Tancrel au dessin, et il dessine aussi, Gwen de Bonneval, Les Derniers Jours d'un Immortel, avec également Fabien Velman au scénario. C'est un peu une clique qui bosse pas mal ensemble. Fabien Velman, j'ai déjà dû présenter des BD de lui au scénario. Mathieu Bonhomme, non, je crois que c'est la première, et Gwen de Bonneval aussi, mais ils sont 4-5, Hervé Tancrel, Fabien Velman, Gwen de Bonneval, Mathieu Bonhomme, à bosser pas mal ensemble et dans un imaginaire assez varié, on retrouve pas mal le médiéval fantastique, mais affiné, particularisé par leur style, par leurs histoires qui sont particulières, qui sont pas des choses déjà pré-mâchées qu'on a déjà vues. Ils amènent vraiment quelque chose en plus dans la manière de traiter leur récit.
Autant d'œuvres que tu cites qui sont bien sûr disponibles à la BDTech.
Presque tous. Le Marquis d'Anaon, c'est à la BDTech. Esteban aussi. Le cinquième tome, je ne l'ai pas encore acheté. Il est paru il n'y a pas très longtemps. Texas Cowboy également. Mais par contre, je n'ai pas Gilgamesh, ni Les Derniers Jours d'un Immortel.
Bon, à suivre.
Tout à fait.
On rappelle peut-être les permanences de la BDTech,
d'accord.
C'est quand même le but de venir les chercher.
Merci pour la petite com. Donc, premier et troisième mercredi de chaque mois, au Centre Social et Culturel Cordevaour de 14 à 17 heures, et le premier vendredi de chaque mois, de 19h30 à 22h30, à Vaour, dans un lieu à préciser pour le moment à chaque permanence. Je ne vais pas me rétendre là-dessus, je disais un petit peu le contexte par rapport à la permanence de Vaour en début d'émission. Et la dernière permanence de chaque mois, c'est le troisième vendredi à Mouziès-Panins, de 18h à 20h30, rue Occitane, pour localiser.
Eh bien, merci Guillaume.
Merci Marie-Laure.
À très bientôt.
À bientôt.
CFMradio.fr. CFMradio.fr.